kupenda malaika. Malaika, roho yangu
Galère. Nous sommes mercredi 3 avril 2023, Dominique et Françoise au micro de Livres et Amis, et donc sur Radio Galère avec Louise à la technique. Et galère, oui, ben, vraiment galère pour en particulier nos médias, propriété du grand capital à 90% ou presque. Et dans cette émission, donc de retour de quelques voyages des semaines précédentes, nous sommes de retour en studio à Marseille et en tout cas en France pour la dénonciation de l'orientation de droite de nos médias avec, en particulier l'analyse des émissions de Cyril Hanouna. Françoise a trouvé chez Transit, je pense, une de nos librairies marseillaises préférées, une petite collection qui s'appelle Seuil et Libelle et qui a pour projet de alerter, informer, questionner. Alors, nous vous présentons ce petit Seuil et Libelle qui s'appelle Touche pas à mon peuple de Claire Secaille. Et c'est une analyse brève, documentée, incisive. Claire Secaille est une chercheuse, une historienne spécialiste des médias. Et donc cet ouvrage qui s'appelle « Touche pas à mon peuple », eh bien c'est une formule, enfin c'est un titre qui reprend bien sûr la formule de SOS Racisme dans les années 80, « Touche pas à mon pote », mais qui a été largement dévoyé par Cyril Hanouna dans le titre de son émission « Touche pas à mon poste ». Donc... ici, Claire Secaille analyse précisément les émissions de Cyril Hanouna et ses nombreuses dérives de droite en général que nous allons essayer de qualifier plus spécifiquement dans l'analyse que nous ferons avec elle. Dans la collection Seuil Libelle, le résumé qui se trouve habituellement en quatrième de couverture est en fait en première de couverture. Donc on sait où on va. Allons-y donc une heure, ou pas tout à fait parce qu'on est un petit peu en retard pour des raisons techniques. Une heure donc ou presque avec Claire Secaille et une heure ou presque avec le narcotico-populisme de Cyril Hanouna. Voici ce que nous trouvons en première de couverture. Dévoyant les principes les plus élémentaires du débat et s'abritant derrière l'excuse du divertissement, le populisme de Cyril Hanouna est une entreprise de désinformation qui menace les fondations de la démocratie. Ce livre s'adresse à celles et ceux qui douteraient encore du projet idéologique de Vincent Bolloré, comme à ceux qui n'acceptent plus la banalisation de la violence des échanges humains, la dépolitisation des échanges citoyens et l'abrutissement du débat public. Donc je vous le disais, on sait où on va et en effet, on y va avec l'introduction que va nous lire Françoise sur ce télépopulisme.
Télépopulisme, les dangers du système Hanouna. titré l'Obs en novembre 2022. Pourquoi le terme populiste, généralement attribué à des idées ou des personnalités politiques, se retrouve-t-il associé à un animateur télé sans fonction politique ni ambition électorale? Peut-être parce que Cyril Hanouna a parfaitement compris une dimension essentielle du travail politique qu'il pratique au quotidien par le biais de son émission « Touche pas à mon poste » TPMP. Capter et structurer l'imaginaire populaire afin d'y puiser une autorité et une légitimité. Vision du monde plus ou moins théorisée, le populisme prétend que la société se divise en deux camps homogènes et antagonistes, le peuple pur et l'élite corrompue, et considère la politique comme l'expression de la volonté générale du peuple. Il se distingue donc de la démagogie qui consiste juste à flatter le peuple pour en rechercher l'adhésion. Si Cyril Hanouna est démagogue, il gagne ses galons populistes en adhérant à la conception duale d'un monde clivé verticalement entre élite et peuple, l'élite étant constituée comme adversaire de ce peuple au nom duquel l'animateur prétend parler. Lors de sa création sur le service public en 2010, TPMP était une émission de télévision sur la télévision. Aujourd'hui, elle s'impose comme un magazine de société traitant des sujets parfois graves de l'actualité au prisme des codes du divertissement.
Oui, en fait, c'est tout le problème. Hein. C'est le mélange divertissement et information. L'information, c'est ennuyeux. Enfin, c'est un petit peu le message. Et c'est vrai que, par exemple, les Américains ont inventé une notion nouvelle de mélange d'information et de divertissement, l'infotainment, c'est-à-dire le mélange de information et entertainment. Et c'est effectivement ce mélange de information et divertissement qui fait les caractéristiques d'émissions comme « Touche pas à mon poste » de Cyril Hanouna. Alors, les émissions de Cyril Hanouna s'inscrivent effectivement dans l'histoire des programmes d'infotainment qui, depuis la fin des années 90, sont devenus des lieux de représentation de la politique. Il s'agit donc de revivifier l'information hors du cadre journalistique, suspecté de contribuer au désintérêt des citoyens pour la chose publique. Mais devant 1 700 000 téléspectateurs réunis en moyenne chaque soir, puisque TPMP existe du lundi au vendredi sur la chaîne de Bolloré, enfin une des chaînes de Bolloré, TPMP donc participe surtout à la mise en tension de la société en montrant une caricature de ses clivages, dévoile les fondements de la démocratie d'opinion en sapant les règles du débat et assure le triomphe du ressenti, le fameux bon sens populaire, sans chercher, à de très rares exceptions près, à expliquer les causalités. Ce populisme hanounesque présente-t-il un risque pour la démocratie? Une étude consacrée à la télévision italienne montre, à partir de données agrégées, que les téléspectateurs exposés précocement aux chaînes de Silvio Berlusconi présentaient à l'âge adulte une moindre sophistication sur le plan cognitif. Eh oui, niveau de calcul, alphabétisation, et même sur le plan civique, moindre intérêt pour la politique, faible engagement associatif ou partisan. C'est d'ailleurs ce qui a été retrouvé aux États-Unis quand on a comparé les informations de Fox News, qui est un peu l'équivalent des Bolloré locales, et CNN, qui est plus généraliste. En particulier, les jeunes publics des programmes commerciaux du réseau Mediaset tendent à devenir des adultes plus réceptifs aux rhétoriques populistes, comme celle, par exemple, de Forza Italia ou du mouvement 5 étoiles quand on est en Italie. Nous ne disposons pas d'études de réception sur les publics de Cyril Hanouna, mais comme pour les divertissements berlusconiens, c'est-à-dire italiens, l'animateur touche des jeunes souvent éloignés des programmes d'information traditionnels. Le risque de l'exposition précoce et répétée à ces émissions reste donc une question pertinente. Pour le citoyen, le danger n'est pas d'être diverti, mais d'être mal informé. En dévoyant les principes les plus élémentaires du débat public et en s'abritant derrière l'excuse du divertissement, le populisme à Nounesc est bel et bien une entreprise de désinformation qui sape les termes de la conversation sociale et menace par extension les fondations de la démocratie. Pour sortir de la sidération provoquée à chaque polémique, il faut comprendre le système de valeurs façonné par l'animateur à travers ses émissions. C'est donc là, maintenant, ce à quoi s'emploie Claire Sécaille. De quoi s'agit-il en fait? C'est ce qu'elle va nous expliquer, c'est ce qu'elle va disséquer, je dirais, et analyser. Et c'est l'intérêt de l'ouvrage que nous avons en main, c'est de vraiment analyser le dispositif.
Un dispositif médiatique du populisme. TPMP, c'est d'abord une émission de plateau en direct, avec sa scénographie, sa dramaturgie et sa façon d'être habitée par un monde social qui, de l'animateur au chroniqueur en passant par le public, sert une mécanique bien huilée. Espace symbolique fait d'usage, de pratiques et de croyances, ce dispositif produit une identité télévisuelle qui se moule parfaitement dans les trois principales composantes du populisme. Le public, érigé chaque soir en figuration du peuple, l'animateur, édifié en représentant de ce peuple, et le plateau, dont les règles simplificatrices réalisent le système dual populiste. Le public appelle au peuple. Le public est au cœur du dispositif Hanounesque. Un public médiatique est un ensemble de personnes qui ne partagent pas forcément le même espace physique, mais sont unies par un imaginaire commun formulé pour exister en tant que communauté. Dans le vocable de Cyril Hanouna, cette communauté imaginée s'incarne à travers trois acceptions. L'audience, notion quantitative et désincarnée, les téléspectateurs, notion expérientielle, le populaire, notion abstraite mais stratégique. Sans lien avec la mécanique populiste, les deux premières dimensions, quantitative et expérientielle, du public sont omniprésentes et s'articulent régulièrement dans le discours d'un Cyril Hanouna obsédé par ses audiences. Grâce à une application sur son téléphone, il suit en direct les données chiffrées de ses émissions et n'hésite pas à abréger ou prolonger une séquence selon sa performance. L'existence de la communauté imaginée du public-peuple repose sur la mise en scène du sentiment d'appartenance et sa réciprocité. Cette communauté passe notamment par les distinctions catégorielles d'âge et de milieux socio-économiques. S'il n'existe aucune étude de réception pour comprendre les usages des téléspectateurs de TPMP, deux sondages récents renseignent leur profil géopolitique. L'animateur fidélise des catégories populaires, pas ou peu diplômées, ouvriers, employés, artisans, commerçants, femmes au foyer, inactifs. Même si TPMP n'est pas le seul talk show à pouvoir se targuer d'attirer un public jeune, Cyril Hanouna est populaire auprès des moins de 35 ans. 45% des 18-24 ans, 42% des 25-35 ans regardent ses émissions, qui sont aussi les plus assidues. Cyril Hanouna multiplie les adresses ciblées à destination des sous-catégories les plus valorisantes pour revendiquer un statut de modèle. On est énormément regardé par des jeunes qui parfois ne savent plus trop où ils en sont et peuvent faire tout et n'importe quoi. 23 mai 2022. Mais la notion la plus stratégique du public hanounesque reste sa dimension populaire. Pour qui convoite une place dans le débat politique, cette acception permet de métamorphoser un public en peuple et transformer l'arène médiatique en agora démocratique. TPMP représente une culture populaire. Il ne faut pas prendre une posture d'intellectuel pour en parler, alors que les gens regardent pour se détendre. Attaquer une émission populaire, c'est un mépris du peuple. Et entre le peuple et les élites, je choisis toujours le peuple, dit-il. Résumons ce glissement sémantique. Authentifier que l'on est populaire auprès du public permet de se réclamer du peuple. cette figure polysémique et plurielle qui, en retour, offre une légitimité à celui qui entend peser dans le débat. Dans cet imaginaire, le public-peuple, guidé par le bon sens et l'intérêt commun, a forcément raison. Critiquer l'émission revient à dénigrer ce public, donc le peuple.
Oui, donc en fait, un vrai spectacle genre les jeux du cirque, pourrait-on dire, à l'ancienne ou à l'antique. Trouver des figures, montrer des héros, c'est un petit peu ce que Cyril Hanouna se propose pour justement toucher, entre guillemets, le peuple. Cyril Hanouna sait que la télévision se peuple d'abord par l'image, les récits, les émotions, c'est-à-dire des visages et des témoignages. Il préfère donc se concentrer sur la relation authentique qu'il établit avec ses invités. Le gilet jaune combatif, la jeune fille agressée, la mère courage d'un enfant harcelé, etc. Réduites à leur prénom et à leur histoire édifiante, ces figures du peuple se présentent, vivantes et incarnées, au public qui leur ressemble. Et l'animateur, là, est à la fois un représentant du peuple et un chef de bande. Dans le phénomène populiste, le peuple opposé à l'élite est dépendant d'une figure chargée de le représenter et de porter ses revendications, le leader ou le représentant du peuple. Stéréotype de l'homme fort, le leader charismatique hérite donc ainsi d'une double fonction, mobiliser les masses et diriger une organisation partisane conçue comme cadre de cette mobilisation. La transposition de ce schéma politique au dispositif télévisuel est facile. Le chef de parti fait place à l'animateur tout puissant. La masse devient la communauté représentée et imaginée du public et l'organisation partisane s'incarne dans la bande des chroniqueurs réunis en plateau autour de l'animateur vedette. Placé au cœur de la mécanique, cet animateur peut alors mettre en scène ses attributs personnels, à bien des égards semblables à ceux de certaines figures populistes des démocraties libérales, et asseoir son leadership de représentant du peuple et de chef de bande. Pour représenter le public, le peuple, l'animateur, qui est le leader, Cyril Hanouna, doit d'abord montrer sa différence, imposer des qualités particulières pour prouver son aptitude à représenter ses concitoyens téléspectateurs, et comme d'autres, comme des Italiens, Britanniques, États-Uniens, etc., il emprunte les caractéristiques langagières des personnes représentées. Registre verbal simple, direct, fleuri d'argot, je dirais même de vulgarité, identification à l'homme de la rue, valorisation de l'inculture, stéréotypes sexistes, homophobes, familiarité avec les invités. Un style mis en avant pour rejeter le langage technique ou précieux attribué aux élites et donc faire corps avec le sens commun du peuple. Cyril Hanouna cultive également la spontanéité des échanges, là encore par opposition aux conventions ou aux bonnes manières d'autres plateaux. Le direct est essentiel pour renforcer l'effet d'authenticité visé. Pour l'animateur populiste, savoir maîtriser le direct n'est donc pas seulement l'affichage d'une qualité professionnelle, mais c'est aussi un parti pris d'un modèle de désintermédiation revendiqué entre le public et soi, à l'image de la mécanique populiste. En d'autres termes, un homme du direct est un homme direct, c'est-à-dire sincère. Pas de montage, pas de triche, enfin, c'est ce qu'il dit. La personnalité populiste privilégie l'action au débat et affiche son goût pour la prise de décision rapide, voire expéditive. Sur son plateau, les experts jugés bavards ou technocrates sont priés de faire court ou de se taire. Et comme le leader politique populiste, l'animateur populiste doit convaincre son public qu'il n'appartient pas à l'élite. Sur ce point, Cyril Hanouna préfère jouer l'honnêteté. Oui, on m'a souvent demandé mon salaire, mais je ne l'ai jamais donné parce que je trouve ça indécent. Et de toute façon, moi je trouve qu'on est trop payé par rapport à ce qu'on fait, c'est clair. Ben voyons. Pendant la campagne présidentielle de 2022, il a complètement délaissé la thématique du pouvoir d'achat, alors qu'elle était pourtant la principale préoccupation des Français et donc de son public. Finalement rangé de facto du côté des élites économiques, Cyril Hanouna comptait sur l'effet de sincérité pour faire oublier un train de vie très éloigné de celui de son public. car être du côté du peuple consiste à montrer une capacité d'empathie à l'égard des plus démunis et à être identifié éventuellement comme une personne ressource. Il disait « tous les jours, il y a des gens qui viennent me voir pour me dire « Cyril, aide-moi, j'en peux plus ». Bon, alors, c'est vrai, ici, on est des privilégiés et on voudrait tous aider les gens qui souffrent. C'est ce qu'il expliquait face aux Gilets jaunes. Et dans un élan de sincérité et de générosité, il avait même annoncé la création d'une banque du cœur pour aider les personnes dont le besoin, enfin les personnes dans le besoin, en leur donnant des prêts, en les aidant à obtenir des prêts en tout cas. Un gilet jaune l'a même remercié du fond du cœur en direct dans une émission. Il a remercié ce nouveau Coluche. Mais, et le mais est de taille, mais retardé, modifié, rebaptisé, le projet de pardon, Banque du Cœur, ça me fait tousser, vous voyez, le projet de Banque du Cœur n'a jamais vu le jour. Donc en fait, c'est exactement ça, on est dans l'image, quoi. L'image glorifiée, l'image peut-être un petit peu floue, l'image bien éclairée, mais l'image seulement et vraisemblablement rien derrière. C'est ce qu'on va nous expliquer maintenant avec donc, l'autre modèle auquel Cyril Hanouna essaye de faire penser.
Deux modèles se repèrent chez Cyril Hanouna, celui du chef de bande et celui de l'entrepreneur. Dans le premier cas, le charisme du leader vient de la mise en scène de l'autorité exercée sur l'organisation interne, c'est-à-dire les chroniqueurs. À la tête d'une bande hétéroclite dont la diversité est un gage de télégénie, l'animateur est là pour distribuer les partitions et permettre à chacun d'interpréter le personnage façonné à son image. Le libertarien, l'intello altière, l'homme du peuple, l'ami bienveillante, l'irascible indigné, etc. Contrairement au leadership politique, le but de l'animateur chef de bande n'est pas de surmonter les divisions internes de son groupe, mais de miser sur les rivalités, scénariser les inimitiés et surjouer les réconciliations, peu importe la réalité des sentiments. Comme pour le chef de parti, il doit en revanche pouvoir compter sur la loyauté de ses chroniqueurs. Toute infidélité est bannie. Le leadership hanounesque est politique en ce qu'il est la manifestation d'un pouvoir exercé sur les chroniqueurs. Il est également personnaliste en ce qu'il s'exerce exclusivement de manière descendante. Chaque soir, Cyril Hanouna est à la fois le candidat sollicitant l'adhésion populaire et le dirigeant tout-puissant dans son talk-show. La dérive autoritaire n'est donc pas linéaire, mais une oscillation quotidienne entre les marques d'affection et les répliques cinglantes. Les humiliations sont récurrentes de la part de l'animateur, qui n'hésite pas à relater des anecdotes blessantes sur les chroniqueurs. Les rires jaunes qui ponctuent ces insultes publiques redoublent l'humiliation subie. Mais la source du leadership hanounesque puise également du côté de la figure de l'entrepreneur. Quand ils ne sont pas ses chéris ou ses défouloirs, les chroniqueurs sont d'abord des salariés intégrés dans l'univers référentiel de l'entreprise, la réussite individuelle étant chez Cyril Hanouna une valeur cardinale. Revendiquant la marque la plus puissante du PAF, Cyril Hanouna aime se présenter comme un producteur à succès et diriger sa bande avec les méthodes du management autoritaire. Si la parole est censée être libre, lui seul peut la distribuer et la couper à l'envi, au prétexte du hors-sujet. De cette manière, l'animateur exerce une forme de contrôle sur ses employés, dont la valeur est souvent rapportée au coût pour l'employeur. Pour fonctionner, la recette du leadership doit régulièrement être validée par la bande. Pourquoi TPMP cartonne ? Parce qu'il y a un leader et des suiveurs, assure Mathieu Delormeau le 10 mars 2022. Le leadership de Cyril Hanouna s'apparente au fond au système des confréries où la primauté du lien l'emporte sur le cadre. La mise en scène de la loyauté soude la communauté à la source d'autorité. « T'es fan de nous ?» s'enquiert Mathieu Delormeau, 10 mars 2022. Réponse rassurante de Cyril Hanouna. Notre président, Yves Bolloré, est fan de vous. Il nous regarde très souvent. On l'adore et il nous adore. Gare à qui remettrait en cause ce système vertical de fidélité.
Eh ben oui, un vrai système, donc, au service de Bolloré. C'est dit, c'est clair, en pleine émission. Et avant de faire l'analyse du fonctionnement, je dirais la nécessaire analyse du fonctionnement de ce système, on va quand même se faire une petite pause musicale. Vous allez voir, déjà en 1977, Alain Souchon nous faisait un descriptif des élites qui n'étaient pas piquées des vers. Allons-y.
Ces campeurs sous mes persiennes, mais comprenez-moi, c'est dur à voir quels sont ces gens sur mon plongeoir. Dans les poulaillers d'acajou, les belles basses-cours à bijoux, on entend la conversation de la volaille qui fait l'opinion. Ils disent, on peut pas aimer tout Paris, n'est-ce pas, y a des endroits la nuit où les peaux qui vous font la peau sont plus bronzées que nos petits boulebots. Mais comprenez-moi, la djé là-bas, c'est pas ce qu'il faut sous nos climats. Mais comprenez-moi, à Rochechouart, y a des taxis qui ont peur du noir. Dans les poulaillers d'acajou, les belles basses-cours à bijoux, on entend de la volaille qui fait l'opinion. Que font ces jeunes assis par terre, habillés comme des traînes misères? On dirait qu'ils n'aiment pas le travail, ça nous prépare une belle pagaille. Mais comprenez-moi, c'est inquiétant, nous vivons des temps décadents. Mais comprenez-moi, le respect se perd dans les usines de mon grand-père. C'est parce que mais comprenez-moi, à Rochechouart, y a des taxis qu'on perd du noir. Mais comprenez-moi, c'est une migraine, tous ces campeurs sous mes persiennes. Ne croyez pas que je sois borné, le genre rétrograde avancé. Mais je compte parmi les gens que j'aime bien un jeune avocat africain. N'est-ce pas, cher ami?
Souchon, il se moquait effectivement des poulaillas des cajous et des belles basses-cours à bijoux, c'était clair. Et peut-être que finalement, même si Hanouna prétend aussi se moquer des élites, il se moque aussi de la démocratie et du fonctionnement démocratique en tout cas. Alors, ces opinions énoncées correspondent à une totale simplification des enjeux. C'est tout le problème de ce qu'il dit dans ses émissions. Et donc, Claire Sécaille analyse effectivement le fonctionnement des émissions, le fonctionnement du plateau en tant que tel, comme un lieu où règnent les opinions et précisément la simplification des enjeux. La mécanique populiste cherche à faire entrer dans une interprétation duale du monde, une réalité beaucoup plus complexe. Une première caractéristique du plateau populiste consiste à brouiller le débat en laissant penser que les opinions n'ont pas besoin de faits pour être défendues. Si le discours populiste est pauvre du point de vue intellectuel et même simpliste, il est riche au plan émotionnel et moral. De ce point de vue, « Touche pas à mon poste » contribue à amplifier l'effacement du partage entre le vrai et le faux et encourage le processus de falsification de la réalité qui s'observe plus largement dans les sociétés médiatiques contemporaines. En démocratie, il importe que les citoyens puissent baser leur jugement sur des éléments sérieusement étayés. Mais tel n'est pas le but d'un programme qui joue au contraire avec la facilité du divertissement et prétend éclairer des questions d'actualité en arrangeant des principes fondamentaux du régime d'information à sa sauce. Recoupement des sources, vérification des faits, pluralisme, honnêteté. Non, tout ça n'est pas au programme de Touche pas à mon poste. Au nom de l'audience et de la viralité, TPMP, au contraire, déroule le tapis rouge aux agents de désinformation. Défendre les réalités factuelles et la hiérarchie entre les paroles qui ne se valent pas toutes, comme le font les journalistes ou les scientifiques, voyons, ça vous range dans le camp ONI des bien-pensants ou des sérieux. La deuxième caractéristique du populisme de l'agora hanounesque, c'est de présenter les enjeux d'un problème en mode binaire. Chaque soir sur le plateau, la danse des pancartes brandie par les chroniqueurs, matérialise cette mécanique de réduction à deux termes, pour et contre, j'aime et j'aime pas, oui, non. Loin d'être un gadget du dispositif, cette simplification des sujets d'actualité parasite la compréhension des enjeux et cristallise une ligne éditoriale basée sur la primauté d'un régime d'opinion sur un régime d'information. Donc en fait, c'est ça, c'est ce que va nous démontrer maintenant Claire Sekai, c'est les éléments du discours du populisme hanounesque. Chez Cyril Hanouna, le populisme n'est pas seulement une question de dispositif formel. Il est aussi partie prenante d'un système de valeurs façonné au fil des émissions. Et il y a trois thématiques principales qui caractérisent le populisme discursif de TPMP. L'anti-élitisme intellectuel et médiatique, l'anti-parlementarisme ordinaire et le populisme pénal. Commençons avec l'anti-élitisme intellectuel et médiatique.
Le rejet des élites intellectuelles et médiatiques est le levier le plus précoce du populisme de Cyril Hanouna. Né du ressentiment personnel de l'animateur contre le milieu professionnel et culturel qui lui vouerait un mépris naturel, la détestation des personnes incarnant à ses yeux une forme de bien-pensance devient tangible dès la fin 2015. Lorsque la presse se met à relater les colères de moins en moins discrètes de la vedette. Si une partie des détracteurs de Cyril Hanouna tombe volontiers dans l'écueil du mépris de classe, une autre partie pointe avant tout les dérives de ses programmes de manière argumentée, sans chercher à stigmatiser ni l'animateur ni son public. Or, Cyril Hanouna rejette en bloc les deux formes de critique. Dans un cas, le mépris de classe est un discours assumé. Dans le second, il serait le ressort masqué du dénigrement.
Eh oui, donc c'est sûr qu'il y a l'aspect discours. Et puis il y a aussi, par exemple, l'aspect économique. Parce qu'à la rentrée 2015, alors que l'audience de Touche pas à mon poste augmente et passe à près d'un million de téléspectateurs, Vincent Bolloré signe un contrat de production à Cyril Hanouna, un contrat de 50 millions d'euros par an sur 5 ans. Alors, je dois dire que je n'y connais rien en budget de production des émissions, mais c'est vrai qu'un contrat de 50 millions d'euros par an pour la production d'une émission, alors qu'il semble qu'avant, elle était de 20 millions, ça paraît absolument énorme. Donc, bref, Vincent Bolloré signe un contrat assez faramineux à Cyril Hanouna et ça semble nourrir chez lui, chez le présentateur, un véritable sentiment d'impunité. Et les employés de la société, de même que les autres chroniqueurs, disent qu'en effet, ils ressentent le changement. L'émergence de critiques qui, à ce moment-là, sont de plus en plus vives contre TPMP de la part de journalistes extérieurs coïncide, par exemple, avec la multiplication des dérapages de plateau. Loin d'ignorer certains propos qui relèvent bien du mépris de classe, l'animateur s'en nourrit pour apporter la preuve du rejet des élites à l'égard de tout ce qui s'apparente à la culture populaire. Il y trouve également une opportunité pour tenir le rôle de défenseur du peuple contre cette élite méprisante, unifiée. Le populisme anti-élite de Cyril Hanouna ne touchera plus que des personnalités extérieures au groupe, désignées à travers les dénominations désormais rodées de intelligentsia, bobo, bien-pensant, donneur de leçons, etc. Cyril Hanouna adresse ainsi de l'intellectuel méprisant un portrait moral et politique à partir d'attributs ou de traits d'image récurrents. Politiquement étiqueté à gauche, issu de l'audiovisuel public, habitué du café de Flore, jaloux du succès de l'animateur, déconnecté du monde réel, etc. Et plus il s'attire la critique, ce fameux Cyril Hanouna, plus il a des ripostes verbales publiques violentes, y compris, en effet, contre ses contradicteurs professionnels. L'anti-élitisme hanounesque repose donc sur le dénigrement systématique des personnalités ayant formulé une critique contre l'animateur, mais jamais sur les motifs même, sur les raisons précises de ces critiques. Parce qu'il y a eu intimidation, dérapage à l'antenne, discours de stigmatisation, désinformation. Mais cela, évidemment, Hanouna ne le reconnaîtra pas. L'argument du mépris de classe, qui permet d'évacuer le problème Hanouna, c'est finalement une violence, symbolique ou réelle, souvent convoquée pour nier la violence physique et verbale bien réelle de l'animateur, dans la mesure où l'élite hérite ainsi d'une fonction de bouc émissaire pour une communauté hanounesque en quête de cohésion. Dans une époque marquée par le brouillage entre des catégories, le problème n'est pas d'incarner une culture populaire, mais de se servir d'une vision dégradée de cette culture populaire pour l'opposer à une conception élitaire artificiellement érigée en repoussoir. Pour l'animateur, la télévision n'est au fond pas cet instrument de réconciliation entre deux visions du monde, c'est bien le contraire. Et c'est bien ce qu'on va retrouver aussi dans le deuxième élément qu'il pratique volontiers, c'est l'anti-parlementarisme.
Un élu de la République traité en direct de merde par l'animateur de TPMP. Si l'affaire Louis Boyard du 10 novembre 2022 a provoqué une vague d'indignation transpartisane, c'est bien parce que la charge contre l'ancien chroniqueur devenu député insoumis est aussitôt apparu comme le symbole d'une attaque contre l'institution parlementaire. Inédite par son intensité, la séquence n'est pourtant pas une première dans TPMP et constitue plutôt l'aboutissement d'une caractéristique de certains populismes anti-élites, l'anti-parlementarisme ordinaire. Pour le populiste, la souveraineté du peuple, source de tout pouvoir politique, ne doit pas être entravée par les institutions de la démocratie représentative qui relèguent le peuple au profit de ses représentants. Depuis le XIXe siècle, la tradition parlementaire n'a cessé d'inspirer en retour une culture anti-parlementaire ancrée historiquement dans différentes cultures politiques. La version hanounesque de cet anti-parlementarisme télévisuel appartient à la tradition protestataire. Liée à une culture populaire, elle ne porte aucun projet politique et reste surtout le levier d'une colère à l'égard d'élus présentée à travers des tares morales généralisées et essentialisées. Chez Cyril Hanouna, le discours anti-parlementariste n'est donc pas idéologique, mais se présente plutôt comme une construction discursive chaotique et collective, le parti pris du bon sens populaire, alimentant les vagues d'indignation des chroniqueurs. Le mouvement des Gilets jaunes 2018 a joué un rôle clé dans l'émergence de ce discours hostile aux corps institués. En 2020, le ton a changé. Le 16 septembre, TPMP interroge « Les politiques sont-ils trop payés ?» C'est vrai qu'il y a de plus en plus de Français qui n'ont pas confiance dans leurs élus, appuie Cyril Hanouna, avant de passer en revue les salaires des personnels politiques. Ne voulant pas tomber dans le poujadisme, une partie des chroniqueurs se montre conciliante à l'égard du chef de l'État et du gouvernement. En raison du poids des responsabilités, les membres de l'exécutif méritent bien les avantages liés à leur fonction, du moins tant qu'ils sont en activité. Les petits maires, proches du peuple, s'en sortent bien également, eux qui tentent de concilier leur rôle d'élu et une activité professionnelle. En revanche, les parlementaires concentrent la critique. À leurs avantages jugés excessifs s'ajoute un train de vie déraisonnable avec de l'argent public, ainsi qu'une remise en cause de leur utilité sociale. Il y a une différence entre les maires des villages qui sont H24 en train de travailler et les mecs qui dorment au Sénat. La moindre critique formulée par un élu contre TPMP donne lieu à une salve d'antiparlementarisme ordinaire de la part de Cyril Hanouna. Ces mecs qui ne font rien, qui sont derrière leur bureau, qui prennent leur oseille de député et qui ne foutent rien de l'année, et ils viennent nous gonfler, c'est incroyable. La critique d'un député est désormais le ressort systématique d'un discours conspuant l'ensemble des élus.
Oui, c'est assez fou, quoi. C'est vraiment le dénigrement systématique des élus. Ce qu'on appelait, il y a longtemps, au XXe siècle, des propos de café du commerce. En fait, la télévision ou les émissions, entre guillemets, populistes de Cyril Hanouna remplacent finalement les propos de café du commerce. Et c'est exactement le même type de propos qu'on va avoir, par exemple, dans ce que Claire Sécaille appelle le populisme pénal. Le 18 octobre 2022, par exemple, Cyril Hanouna réclame à l'antenne un procès immédiat et la perpétuité directe pour la suspecte du meurtre de la jeune Lola, lui contestant effectivement tout droit à être défendu. Le 21 octobre, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, fustige l'animateur dans cet aveu. Bâillonner l'état de droit pour flatter les bas instincts et faire de l'audience, non, c'est inacceptable. Effectivement, une justice directe, une justice à l'antenne, c'est inacceptable. Le traitement de l'affaire Lola dans TPMP illustre la propension du discours hanounesque au populisme pénal. Dans son principe, cette déclinaison du populisme est une déformation de la philosophie pénale, basée sur un équilibre constant entre une inclination à la répression et une inclination à la clémence. Selon certains magistrats, la politisation de la question pénale, autrefois circonscrite aux seules administrations et professions du droit, a entraîné une dissociation entre la volonté de punir et le droit de punir. TPMP n'est pas le premier programme audiovisuel à exacerber les attentes punitives des publics par l'instrumentalisation des émotions liées aux préoccupations sécuritaires. Mais le talk show est un cas inédit et spectaculaire de conversion éditoriale d'une émission de pur divertissement en magazine de société, dont certaines séquences viennent régulièrement alimenter des obsessions sécuritaires. Ben oui, c'est là le problème, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est limite ou confusion entre effectivement divertissement et information, information et divertissement. La montée du populisme pénal dans les émissions de Cyril Hanouna est liée à deux phénomènes disjoints mais complémentaires. D'une part, à partir de 2017, une ouverture progressive de TPMP au sujet de société, notamment à travers les faits divers valorisant la figure de la victime. D'autre part, à partir de la rentrée 2020, une extrême droitisation de la ligne éditoriale via l'importation de thématiques sécuritaires et précisément la mise à l'actualité d'invités politiques ou politisés issus de sensibilités ultra-conservatrices, réactionnaires et ou identitaires. Après la crise des Gilets jaunes, TPMP s'ouvre plus franchement au sujet de société en s'emparant de faits divers non liés au microcosme médiatique, puisque c'était au départ son centre d'intérêt principal. Donc on ouvre par exemple le débat sur des agressions sexuelles, des actes racistes, etc. Le talk show trouve une nouvelle vocation en intégrant sur son plateau une puissante figure des récits criminels, la victime. Les victimes ont un droit supérieur à la parole et la télévision doit remplir ce rôle à la fois d'alerte publique et de soutien psychologique. En partageant leur douleur, en s'exprimant rapidement, alors que la justice ne leur offre comme tribune qu'un lointain procès, les victimes trouvent sur les plateaux une aide précieuse. « Je ne suis pas leur avocat, » dit Cyril Hanouna. « Mon émission n'est ni juge ni partie, mais je leur ouvrirai toujours la porte. » La pente vers ce populisme pénal se produit quand la victime est opposée au fonctionnement normal de l'institution judiciaire, jugée inefficace, lente ou inadaptée. Donc la dévalorisation du parlementarisme, la dévalorisation du système judiciaire, c'est finalement la même chose. Dans les discours hanounesques, la violence originelle subie par la victime se double d'une violence institutionnelle naturalisée par l'état de droit. On dévalorise l'état de droit, on dévalorise les structures, on dévalorise les institutions pour mieux mettre en avant, bah oui, le peuple. Mais quel peuple ? Émission poreuse à la viralité des réseaux sociaux et auto-alimentée par les contenus des autres chaînes du groupe Canal, donc du groupe Bolloré, TPMP achève sa mue début 2021 en devenant une émission de société politisée. Il y a bien des opinions différentes sur des sujets d'intérêt général, dit le régulateur, mais elles ne sont pas forcément exprimées, ou alors elles sont exprimées par des personnes qui ne sont pas toutes présentes sur le plateau. En fait, la mécanique discursive du fonctionnement du plateau est inéluctable. Même pour critiquer la volonté de punir, le mode contradictoire alimente d'abord la mise à jour d'un populisme pénal. Face à ces appels punitifs ou répressifs, au caractère prétendument populaire, les institutions pénales n'ont évidemment aucune chance de faire entendre leur voix, ni l'état de droit, ses principes de fonctionnement. C'est ainsi que se trouve bien mis en avant un système qui s'appuie sur des idéologies et une stratégie populiste. Cyril Hanouna élabore un système de valeurs bien plus qu'un système de pensée. Chez lui, les qualités humaines sont un moteur plus important que les idées pour concevoir l'organisation et les objectifs d'une société. Ce constat fait de « Touche pas à mon poste » un cas pratique idéal pour tester la définition du populisme comme idéologie peu substantielle. Eh oui, peuple versus l'élite. La morphologie rudimentaire est malléable. Le populisme, ça fonctionne comme un moule dans lequel peuvent se côtoyer plusieurs idéologies définissables elles-mêmes comme populistes lorsqu'elles usent par adhésion ou stratégie du ressort effectivement dual peuple versus élite. L'animateur populiste n'a plus qu'à orchestrer leur mise en concurrence sur son plateau en œuvrant lui-même dans le cadre de ce projet politique bien droitisant. C'est ce qu'a fait BTP. Alors BTP, c'était quoi ? C'était, je consulte mes notes. Moi, j'ai pas la télé. Hein. C'était Balance ton poste. Donc c'est ce qu'avait fait Balance ton poste à partir de 2018, qui était normalement vraiment tourné vers les médias. Et c'est ce que faisait effectivement Touche pas à mon poste depuis 2010, mais avec des orientations devenues beaucoup plus à droite à partir de 2015, avec l'approximation et surtout l'insertion dans l'entreprise idéologique de Vincent Bolloré. Et à partir de 2019, il y a même eu la mise en orbite d'Éric Zemmour, puisque pour les élections européennes de 2019, on lui a régulièrement donné la parole. Donc « Balance ton poste » ou « Touche pas à mon poste » sont vraiment devenus des outils disons, au service du système Bolloré, avec en particulier des interviews de personnes d'extrême droite qui étaient peut-être populistes, mais qui se déclaraient surtout comme faisant partie du paysage politique et en particulier défendant des, enfin, disons, des opinions, mais aussi des idées politiques qui sont bien des idées d'extrême droite comme Éric Zemmour. C'est aussi ce qui s'était passé avec le phénomène des Gilets jaunes. Au début du phénomène des Gilets jaunes, Cyril Hanouna s'était montré inquiet. Il disait « Oh là là, mais c'est un mouvement qui va bloquer le pays. Il y a plein de gens autour de moi qui disent « Mais je ne peux pas sortir de chez moi, là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Et puis finalement, pour Cyril Hanouna, la prise de conscience est venue que c'était intéressant de donner la parole à tout le monde. Et donner la parole à tout le monde, bah oui, c'était aussi jouer sur la présence, pas soir après soir, mais presque, de certaines personnalités de Gilets jaunes, en appuyant sur un de leurs mots d'ordre, « Ici, on ne fait pas de politique ». Ah oui, pas de politique ? Bizarre quand même. Non, peut-être on n'incarne pas d'identité politique claire, mais on manifeste des opinions sur une politique et en particulier on dénigre bien sûr le personnel politique. C'est bien ce qu'a compris d'ailleurs le gouvernement, puisque très vite, le gouvernement avec M. Macron et derrière M. Macron ont voulu rééquilibrer cette présence des Gilets jaunes sur les différentes chaînes du système Bolloré et la prise de parole favorable aux Gilets jaunes de Cyril Hanouna. Donc finalement, la stratégie populiste de Cyril Hanouna a été contrebalancée par une stratégie populiste du gouvernement. On a bien entendu les membres du gouvernement annoncer derrière Emmanuel Macron le lancement à partir du 10 décembre 2020 2018, d'un débat sans précédent pour répondre à la crise. L'objectif, c'était de prendre le pouls vivant du pays et de laisser s'exprimer des citoyens qui ne se sentent pas assez considérés. Ben finalement, on est dans la même optique, il faut en effet donner la parole au peuple. Mais donner la parole au peuple à l'extérieur des structures parlementaires, à l'extérieur des structures démocratiques, c'est bien du populisme. La question essentielle demeure donc, quel est le bilan politique de la mise en scène médiatique des opinions de droite ou d'extrême droite dans les émissions de Cyril Hanouna ? Il n'y a eu aucune mesure réelle. C'est difficile, en conclusion, de dire si effectivement il y a une véritable influence. Mais en tout cas, les critiques de l'émission ont entretenu la mécanique hanounesque en donnant lieu à une feuilletonisation sans fin. La lenteur des procédures et la prudence du régulateur, Arcom, participent au sentiment d'impunité de l'animateur populiste. Il n'est pas sincère, c'est sûr. Il ne respecte pas les contre-pouvoirs ni les corps intermédiaires, pas plus qu'il ne respecte les fonctionnements démocratiques. Mais soutenu et protégé par son groupe, Cyril Hanouna profite des faiblesses institutionnelles pour faire de son irresponsabilité la condition même de son leadership. Les instruments de régulation de l'audiovisuel sont finalement inopérants face à ces dérapages. Rappelons-nous un certain nombre de ces dérapages, sexistes, homophobes, etc. Mais aucune... Enfin, si, il y a eu des condamnations, mais elles n'ont pas permis de redresser la barre. Une véritable hypocrisie, en tout cas, chez l'animateur, puisqu'il semble que l'extrême droite politique et culturelle, qui a bien compris l'intérêt d'investir la scène d'un divertissement dévoyé, a utilisé cette vision ripollinée d'une guerre de civilisation et continue à le faire. « Touche pas à mon poste » devrait aujourd'hui être le cri de tout citoyen attaché à l'indépendance des médias audiovisuels et à la qualité du débat public, mais ce n'est pas du tout ce que fait l'émission de Cyril Hanouna. Alors, se taire ou fermer les yeux, ajouter à la faillite morale collective et donc politique de notre époque, C'était la trajectoire de Cyril Hanouna. Il semble bien qu'il réussisse et nous ne pouvons pas, nous taire ni fermer les yeux devant son entreprise. Voilà, bah c'était ma conclusion personnelle. La semaine prochaine, je ne sais pas trop ce qui se passe. Est-ce que nous repartons en voyage? Est-ce que nous restons en France? Bah écoutez, réponse mercredi prochain. À bientôt, bonne semaine.
Au revoir.